Bonjour. Est-ce que vous êtes moins endormi qu'hier soir? Enfin, vous êtes plus en forme, je veux dire, qu'après une journée de rando. Hein, ce que je voulais dire, je voulais pas dire que vous avez endormi hier soir. Vous étiez sûrement un peu fatigué. J'espère que la nuit a été réparatrice et que vous avez encore des forces. Non. D'accord, j'ai des réponses. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit très dynamique pendant toute la journée pour vous garder éveillé. Mais vous inquiétez pas, cet après-midi, vous allez voir, ça va être une après-midi très dynamique. Parce que il y aura Freddy qui va parler. Ouais. Donc on va lire le Lévitique 19, mais avant de... D'ailleurs, on va lire un petit peu avant, on va lire dans le Lévitique 18. Mais avant de lire, j'aimerais juste introduire en disant que on a vu qu'Israël était une communauté de prêtres, de sacrificateurs, destinés à rester purs et à faire des sacrifices pour adorer Dieu. C'est sa vocation. Mais bien sûr, elle ne fait pas que ça, la communauté d'Israël. Elle ne passe pas sa vie à faire des sacrifices et à regarder si les choses sont pures ou impures, et à les toucher ou pas les toucher. Et à se baigner, tout ça, à prendre des douches tous les jours. Non, c'est pas, elle ne fait pas que ça. Le peuple mène aussi une vie normale. C'est-à-dire, le peuple travaille, le peuple a une vie de famille, a une vie de village. Mais même cette vie normale doit être sainte, doit refléter la sainteté de Dieu. Donc on a pas mal parlé de la pureté et de la sainteté, on va dire, individuelle, mais là, dans les chapitres qu'on va aborder, on va plutôt aborder le sujet de la sainteté communautaire, un peuple saint, un peuple mis à part pour Dieu. Donc je vous invite à lire, on va beaucoup lire la Bible, donc c'est une bonne nouvelle. Donc ça veut dire qu'il y a moins de bêtises qui seront dites normalement s'il y a plus de Bible et moins de moi. Lévitique 18, verset 24. On va lire à partir de là parce que voilà, les chapitres ça nous aide pas mal, mais parfois en fait ça bouffe un peu les transitions, donc il vaut mieux lire un peu ce qu'il y a avant et puis après voir après avec la logique du chapitre 19. Lévitique 18, 24, avant, comme vous pouvez le voir, il y a les prescriptions au sujet de la sexualité, avec qui il ne faut pas coucher. Il ne faut pas coucher avec sa sœur, avec son papa, avec sa maman. Il ne faut pas coucher avec quelqu'un du même sexe. Il ne faut pas coucher avec les animaux, c'est marqué dans Lévitique 18, hein, c'est pas moi qui dis des bêtises. Hein. Donc voilà avec qui il faut coucher, avec qui il ne faut pas coucher. Et pour conclure ce chapitre sur les prescriptions concernant la sexualité, verset 24, voici ce que dit Dieu. Ne vous rendez impurs par rien de tout cela, car c'est par tout cela que se sont rendues impures les nations que je chasse devant vous. Je vous rappelle qu'ils sont avant la terre promise, hein, qui vont chasser sept nations qui habitent la terre promise. Verset 25, le pays en est devenu impur. Je lui ai fait rendre des comptes sur sa faute, pour sa faute, et le pays a vomi ses habitants. Vous observerez donc mes prescriptions et mes règles, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'autochtone, ni l'immigré qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays, ceux qui étaient là avant vous. Le pays est devenu impur, ainsi vous ne rendrez pas le pays impur, et celui-ci ne vous vomira pas, comme il a vomi la nation qui était là avant vous. Quiconque commettra une de ces abominations, quelle qu'elle soit, sera retranché du sein du peuple. Vous assurerez mon service et vous n'agirez pas selon les prescriptions abominables qui avaient cours avant vous. Ainsi, vous ne vous rendrez pas impurs. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Chapitre 19. Le Seigneur dit à Moïse, parle à toute la communauté des Israélites. Tu leur diras, vous serez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Vous ne vous tournerez pas vers les faux dieux et vous ne ferez pas des dieux de métal fondu. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Quand vous offrirez au Seigneur un sacrifice de paix, vous l'offrirez de telle façon que vous serez agréé. On le mangera le jour où vous le sacrifierez ou le lendemain. Ce qui en restera jusqu'au troisième jour sera jeté au feu. Si on en mange le troisième jour, c'est une chose impropre. On ne sera pas agréé. Donc il faudra tout recommencer, sous-entendu. Celui qui en mangera sera chargé de sa faute, car il profane une chose consacrée au Seigneur. Celui-là sera retranché de son peuple. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, Tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de vol. Aucun de vous ne mentira à son compatriote, ni ne le trompera. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'opprimeras pas ton prochain. Tu ne commettras aucune spoliation. La paye d'un salarié ne passera pas la nuit chez toi jusqu'au lendemain. Tu ne maudiras pas un sourd. Et tu ne mettras pas devant un aveugle aucun, tu ne mettras devant un aveugle aucun obstacle qui puisse le faire trébucher. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras pas le grand. Mais tu jugeras ton compatriote selon la justice. Tu n'iras pas calomnier les tiens. Tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur. Tu avertiras ton compatriote, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les gens de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Vous observerez mes prescriptions. Tu n'accoupleras pas de bêtes de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras pas ton champ de deux espèces différentes. Tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces différentes de fil. Lorsqu'un homme a des rapports sexuels avec une femme, si c'est une servante qui a été promise à un autre homme et qui n'a pas été dégagée ni affranchie, il y aura punition, mais ils ne seront pas mis à mort parce qu'elle n'a pas été affranchie. En réparation, l'homme apportera au Seigneur à l'entrée de la tente de la rencontre un bélier en sacrifice de réparation. Le prêtre fera sur lui l'expiation devant le Seigneur pour le péché qu'il a commis avec le bélier du sacrifice de réparation, et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y planterez toutes sortes d'arbres fruitiers, vous considérerez leurs fruits comme incirconcis. Pendant 3 ans, il sera incirconcis pour vous, on ne le mangera pas. La 4e année, tout leur fruit sera consacré à la louange du Seigneur. La 5e année, vous en mangerez le fruit, vous en récolterez le produit pour vous-même. Je suis le Seigneur votre Dieu. Vous ne mangerez rien au-dessus du sang. Vous ne pratiquerez pas la divination et vous ne chercherez pas de présage. Vous ne couperez pas en rond les bords de votre chevelure. Tu ne raseras pas les bords de ta barbe. Vous ne ferez pas d'incision dans votre chair pour un mort. Et vous ne ferez pas de tatouage. Vous ne vous ferez pas de tatouage. Je suis le Seigneur. Tu ne profaneras pas ta fille en la prostituant, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse d'infamie. Vous observerez mes sabbats et vous respecterez mon sanctuaire. Je suis le Seigneur. Ne vous tournez pas vers les spirites ou vers les médiums. Ne les recherchez pas. Vous deviendriez impurs à leur contact. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Tu te lèveras devant les cheveux blancs. Tu honoreras le vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis le Seigneur. Si un immigré vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Vous traiterez l'immigré qui séjourne avec vous comme un autochtone d'entre vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été immigré en Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu. Vous ne commettrez pas d'injustice, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, un épha juste et un hin juste. Je suis le Seigneur, votre Dieu. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Vous observerez toutes mes prescriptions et toutes mes règles. Vous les mettrez en pratique. Je suis le Seigneur. Je suis un peu gêné avec ce genre de passage parce que j'ai rien envie de rajouter. Parce que je trouve que il est vachement beau ce passage. Parce qu'il nous décrit une société qui n'a pas l'air d'être mal. Les règles qui régissent la société d'Israël ont l'air profondément justes. Mais on va quand même étudier le passage, quand même, parce que sinon, c'est pas drôle. Nous avons donc affaire à une communauté particulière. La sainteté d'Israël pourrait se définir avec un seul ordre. Ne soyez pas, ne faites pas comme les autres peuples. C'est ce qui est dit à la fin du chapitre 18. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que les peuples qui habitent la terre, le pays promis avant Israël, vont se faire virer parce qu'en fait, ils commettent des abominations. Et donc, la terre promise, qui est pour eux leur terre d'habitation, va les vomir. Dieu va les virer parce qu'ils commettent vraiment trop d'abominations. Et du coup, à leur place, à la place de ces sept peuples qui font n'importe quoi, Dieu va mettre un peuple qui lui est pleinement consacré, qui ne va pas commettre d'abominations. Alors, les caractéristiques de cette communauté particulière, première caractéristique, elle adore le seul Dieu. Les Israélites vont adorer Dieu et seulement Dieu. C'est beaucoup dit dans ce chapitre 19. Il y a beaucoup de luttes contre l'idolâtrie, contre les médiums, contre les spirites, contre tout ce qui peut être un peu bizarre, tout ce qui peut détourner du seul vrai Dieu, le Dieu qui les a sortis d'Égypte. Parfois les versets qu'on cite hors contexte, les versets 26 à 28 par exemple, qui concernent le fait de tailler sa barbe d'une manière bizarre, le fait de tailler ses cheveux d'une manière bizarre, le fait de se faire des incisions ou de se faire des tatouages, tout cela est lié à l'idolâtrie. C'est pour ça que les personnes n'avaient pas le droit de le faire. C'est pour ça qu'en fait, il y a une expression un peu bizarre, verset 26, « Vous ne mangerez rien au-dessus du sang. » C'est pas trop ce que ça veut dire, hein, au XXIe siècle. Il vous arrive assez rarement, normalement, d'être tenté de manger au-dessus du sang, normalement. Eux, ils étaient tentés parce que c'était une pratique occulte, une pratique idolâtre. Non, les Israélites ne doivent pas faire ça, parce qu'ils sont consacrés au seul vrai Dieu. Et Dieu ne leur a jamais prescrit de faire cela. Il faut qu'ils acceptent de lui obéir. Ils étaient sûrement tentés de faire tout cela, parce que voilà, c'était dans la culture cananéenne, et c'était sûrement aussi dans la culture égyptienne. Ils avaient des pratiques un peu bizarres comme ça, des pratiques un peu occultes. Mais ce peuple, cette communauté particulière, doit lutter contre la culture qui l'environne, doit lutter contre ses instincts premiers, on va dire, et se laisser transformer par Dieu. Autre caractéristique, la communauté particulière d'Israël gère les tensions sociales. Si je devais résumer ce passage en une phrase, ce serait une phrase qui dirait « Voici ce qu'il est juste de faire dans une société parfaite. » Voilà. Pour moi, le chapitre 19, c'est un chapitre qui définit une société parfaite. Et c'est un peu ce que dit l'Éternel dans un autre passage que je vous lis, vous n'avez pas besoin de chercher, c'est en Deutéronome 4. Vous pouvez le marquer quand même, Deutéronome 4, 5 à 8. Quelque chose qui est pas mal. Parce que la société doit être tellement parfaite qu'elle va donner, elle va donner de quoi raconter des choses aux autres nations qui environnent Israël. Voici ce que dit Moïse à Israël. « Regardez, je vous ai appris des prescriptions et des règles, comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous entrez pour en prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions. Ils diront, cette grande nation est vraiment un peuple sage et intelligent. Quelle est donc la grande nation qui aurait des dieux aussi proches d'elle que le Seigneur notre Dieu l'est de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui ait des prescriptions et des règles justes comme toute cette loi que je place devant vous aujourd'hui ? » Moïse, dans le Deutéronome, juste avant d'entrer dans la terre promise, appelle le peuple d'Israël à se rendre compte à quel point la loi est merveilleuse, à quel point la loi les rend sages, intelligents, et à quel point ils vont donner envie à tous les autres peuples qui vont dire mais ce peuple, qu'est-ce qu'ils sont bien ? Je trouve que Lévitique 19 montre bien à quel point la loi est belle. La loi encourage à faire des choses belles. Alors dégageons ce qui caractérise dans ce passage une société parfaitement juste, dirigée par la parole de Dieu. Première chose qui caractérise ce chapitre 19, il ne faut ni avantager ni désavantager personne. Pas de dictature des pauvres, pas de dictature des riches. Il ne faut avantager ni désavantager personne. Encouragement à la justice. C'est la première chose. La deuxième chose, bien sûr, il y a des différences sociales, il y a des riches et des pauvres, mais il faut rééquilibrer les forces en étant généreux avec les plus pauvres. Qui sont les plus pauvres ? Les veuves, les immigrés et les orphelins. C'est pour ça qu'il y a des règles sur le droit de glanage, sur le droit de cueillette. Vous vous rendez compte ? Une loi qui dit aux agriculteurs et aux vignerons, d'accord, vous pouvez récolter, mais vous en laissez, hein. Vous en laissez une partie pour que les pauvres puissent glaner. Pas mal. Donc le profit n'est pas votre motivation première. D'accord, vous pouvez vivre de votre travail, mais il faut que d'autres personnes qui sont plus pauvres puissent en profiter aussi. Mais il y a aussi le prêt à taux zéro. Et on va voir ça après-demain. Le prêt à taux zéro, interdiction de prêter à intérêt. Troisième chose, ne pas faire de différence entre un étranger et un membre de son peuple. Vous traiterez l'immigré comme l'un de vous. Vous aimerez l'immigré comme vous-même. Même au XXIe siècle, hein, c'est pas un truc qui est super fréquent, vous avez remarqué ? Quatrième chose, qui est liée un peu à la troisième chose, ne pas faire de différence entre son prochain et soi-même. C'est encore plus profond, hein ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus a piqué cette expression dans Lévitique 19. C'est comme ça qu'il résume la deuxième tablette des 10 commandements. Cinquième chose, respecter ceux qui sont plus faibles. C'est-à-dire les parents vieux, les aveugles et les sourds. C'est intéressant, hein, tu ne diras pas de mal d'un sourd. Tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. En gros, il faut être un peu sadique quand même, mais j'imagine qu'il y a des gens qui faisaient ça, hein, si c'était dit. Tu te lèveras devant les cheveux blancs. Tu honoreras les vieillards. Ouh. Il n'a pas marqué, tu les mettras dans des maisons de retraite pour qu'ils meurent sans que tu les vois, par exemple. En gros, Lévitique 19 appelle à aimer tout le monde et à le montrer. Comment le montrer ? 6. En étant honnête et droit. Ça peut être un bon résumé. Il faut être honnête et droit. Et même, 7e chose, au verset 17, on aime quelqu'un en le reprenant. Un acte d'amour. Reprends ton frère pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Tu pécherais si tu n'aidais pas ton frère à se reprendre. 8e chose, ne pas se venger. Neuvième chose, que j'ai déjà dite tout à l'heure, ne pas sombrer dans l'idolâtrie et les pratiques païennes. Pourquoi ça ? Et c'est pour ça que je mets ça dans l'angle social. Pour ne pas entraîner son prochain sur la mauvaise voie. C'est bien dit, hein ? Par exemple, tu ne donneras pas ta fille pour en faire une prostituée, sinon tout le pays sombrerait dans la prostitution. Donc non seulement il y a une question de sainteté personnelle, mais il y a aussi le fait que la contagion se répande et que tout le monde fasse pareil. Et du coup, tout le peuple serait contaminé. Qu'est-ce qui doit faire bon vivre dans une société comme celle-là, qui a ce genre d'obligation morale ? Ça doit être le bonheur absolu. Ce passage n'a pas un ton légal, vous avez remarqué ? C'est quelque chose comme ça, il y a des prescriptions, mais c'est un côté, voilà, faites-le quoi, faites-le. Vous serez saint comme je suis saint. Après, il y aura des prescriptions légales, hein, parce que au chapitre 20, carrément, bon, par contre, ceux qui désobéissent, on les lapide joyeusement. Hein. Enfin, joyeusement, peut-être pas, mais en tout cas, on les lapide. On a le devoir de lapider les personnes qui transgressent ces commandements. Ce qui est marqué dans ce chapitre 19, c'est que les Hébreux doivent faire tout cela à cause de ce que Dieu a déjà fait pour eux. Ils doivent le faire parce qu'ils sont bénéficiaires de la générosité du Seigneur qui leur a absolument tout donné. Comme c'est beau de voir un Dieu qui se préoccupe à ce point du bonheur de son peuple. Vous vous rendez compte que 33 siècles après, nous voyons toujours ce qui est marqué dans Lévitique 19 comme une sorte d'idéal inaccessible. Enfin, la plupart des choses, hein, l'idolâtrie, c'est un peu autre chose. Mais au niveau des prescriptions sociales, 33 siècles après, on se dit « ça, c'est vachement bien ». Et ça, a priori, il n'y a pas beaucoup de peuples qui sont arrivés à le faire. Bon, bien sûr, on sait que les Hébreux n'ont pas tout le temps appliqué la loi de Moïse. Hein. La loi était parfaite, mais eux, bon, ils ont eu des petits problèmes. Et donc, 33 siècles après, on n'y est pas arrivé, mais eux non plus, ils ne sont pas arrivés, hein, vous inquiétez pas. Mais l'air de rien, cette loi sert encore de ligne de mire à beaucoup d'êtres humains qui aspirent à une société égalitaire, une société qui est régie par de bonnes lois sociales. Même si ces personnes sont plutôt d'extrême gauche et ne savent pas que leur valeur se trouve dans l'Ancien Testament. Moïse était altermondialiste. C'est sûrement ça. Alors, on vient de voir la société parfaite vue par Dieu. Mais comme vous le savez déjà, et comme je l'ai déjà dit il n'y a pas très longtemps, là, le peuple d'Israël s'est planté. Donc, Dieu a mis en place la seconde partie de son plan de sauvetage pour l'humanité. Ce n'est pas Israël, c'est l'Église. C'est-à-dire l'ensemble des gens qui ont Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et donc il a créé d'autres micro-sociétés. Et là aussi, il y a une loi qui sert de règlement intérieur à ces micro-sociétés. Et cette loi est encore plus exigeante que Lévitique 19. Encore plus exigeante. Et c'est dans Romains 12. Et je vous invite à lire Romains 12, hein, parce que soyons fous. Comme ça, ça vous permet de comparer. On a beaucoup parlé de Romains 12, hein, vous avez remarqué pendant toute la semaine. Je pense qu'il y a des comparaisons à faire. Romains chapitre 12, on va tout lire. Hein. Soyons vraiment super fous. Donc là, c'est Paul qui parle à des chrétiens, bien sûr. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la c'est horrible ce mot, magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas entretenir de prétentions excessives, mais de tendre à vivre avec pondération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. En effet, tout comme il y a une multitude de parties dans notre corps, qui est un seul, c'est la nouvelle Bible seconde que je lis, c'est pour ça que je n'ai pas trop l'habitude, et que toutes les parties de ce corps n'ont pas la même fonction, ainsi, nous, la multitude, nous sommes un seul corps dans le Christ et nous faisons tous partie les uns des autres. Mais nous avons des dons différents de la grâce, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est de parler en prophète, que ce soit dans la logique de la foi. Si c'est de servir, qu'on se consacre au service. Que celui qui enseigne se consacre à l'enseignement. Celui qui encourage à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui dirige avec empressement. Celui qui exerce la compassion avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Soyez les premiers à honorer les autres. Ne soyez pas paresseux, mais empressés. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur comme des esclaves. Réjouissez-vous dans l'espérance. Endurez la détresse. Consacrez-vous assidûment à la prière. Soyez solidaires des saints qui sont dans le besoin. Poursuivez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. Ne soyez pas orgueilleux, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous croyez pas trop avisé. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire ce qui est bien devant tous. S'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Ne vous faites pas justice vous-même, bien-aimé, mais laissez place à la colère, car il est à la colère de Dieu. Hein. Mais car il est écrit, c'est moi qui fais justice, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des braises que tu amasseras sur sa tête. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Je trouve que on est passé plusieurs crans au-dessus du Lévitique. Parce que là, nous sommes dans une communauté qui est particulière parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et c'est pour ça que les exigences sont peut-être un peu plus fortes. Ce règlement intérieur, je pense, par rapport à Lévitique 19, ne vise plus une société parfaite, mais une société d'hommes parfaits. Ce qui est une nuance assez importante. C'est en fait le bout de la logique de ce qui est dit au second verset de Lévitique 19. « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. » Romains 12, c'est un peu l'antidote à la désobéissance et à l'hypocrisie qui était possible en Israël. Pour que la loi parfaitement juste soit bien appliquée, il faut que l'homme ait envie de l'appliquer. C'est bien ça le problème avec la loi, c'est que si on n'a pas envie de l'appliquer, on peut ne pas le faire, on peut faire semblant. Il faut donc que l'homme devienne parfaitement juste dans ses envies, dans ses préoccupations, au plus profond de ses tripes. L'homme doit être transformé par Dieu pour devenir saint comme Dieu. Et comme tout à l'heure, je vous propose de dégager ce qui caractérise un homme chrétien parfait dans Romains 12. Et vous allez voir, c'est assez facile. Vous avez toujours Romains 12 sous les yeux. Versets 1 et 2. Se donner soi-même comme sacrifice pour que Dieu transforme l'homme pécheur, qui se comporte donc selon la volonté du monde, en homme saint, qui se comporte selon la volonté de Dieu. Versets 1 et 2. Versets 3 à 8. Ne pas être prétentieux, mais s'épanouir à la place qui est la sienne, sachant que c'est l'Église dans son ensemble qui rend gloire à Dieu. Versets 9 à 13. Là, versets 9 à 13, on retrouve beaucoup de caractéristiques de Lévitique 19. C'est un gros point commun. Versets 14 à 16. S'identifier à ceux qui sont joyeux comme à ceux qui sont tristes. Ne pas faire de différence entre les gens. Toujours un peu comme dans Lévitique 19. Sauf que la différence avec Lévitique 19, c'est qu'il faut aussi bénir ses ennemis. C'est un détail, mais qui a son importance. Bénir ses ennemis. Comme s'il fallait aussi s'identifier à eux. C'est un peu comme Lévitique 19, vous n'exploitez pas l'immigré parce que vous avez été immigré en Égypte. Et là, bénissez vos ennemis parce que vous avez aussi été mes ennemis. Ça change les choses, non ? Nous avons été les ennemis de Dieu. N'oublions pas ça. Versets 17 à 21. Le but ultime du chrétien régénéré, être vainqueur du mal par le bien. Être vainqueur du mal. On pourrait être vainqueur du mal par la haine, par la violence. Non, il faut être vainqueur du mal par le bien. En vivant en paix avec tout le monde. Et là-dedans, en fait, il y a deux choses qui sont complètement révolutionnaires. Déjà, il y a un but complètement utopique. Hein. Il faut vaincre l'injustice alors que le monde est naturellement injuste. C'est un peu dur. Alors, le but est utopique, mais les moyens sont encore plus utopiques. Les moyens, c'est l'amour pour son prochain. Un prochain, quel qu'il soit, hein, Alors que normalement, le changement s'obtient par la violence, par les coups bas. En fait, on parle toujours, pour un changement radical, on parle de révolution. Et la révolution, normalement, souvent, très souvent, elle se finit dans un bain de sang. Pourquoi est-ce que c'est l'amour du prochain qui est utilisé comme moyen? C'est toujours la même chose dans toute la Bible. C'est parce que Dieu est souverain. Parce que c'est lui qui commande. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui gère. Alors on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance. Donc, pas besoin de frauder, pas besoin de manipuler, pas besoin de favoriser. Dieu est le juste juge qui est au-dessus de tout le monde. Il rendra justice. Lévitique 19, Romains 12. Il faut faire confiance à Dieu. Donc, si on fait confiance à Dieu, on n'a pas besoin de se reposer sur nos propres forces et de vouloir frauder. Aussi, on peut laisser une partie de sa récolte sans avoir peur de manquer. Dieu en donnera assez pour tout le monde. Voilà, c'est logique. On ne va pas exclure l'étranger, puisqu'on est soi-même étranger sur cette terre. Et cette terre, elle appartient à qui ? Elle appartient à Dieu. Il n'y a pas besoin de se venger, pas besoin de se faire justice soi-même. Dieu s'en occupe. Pas besoin de croire qu'on est les meilleurs, qu'on est le meilleur, qu'on va tout arranger, qu'on est Superman. C'est Dieu le sauveur, pas nous. Être conscient que Dieu est souverain sur notre vie et sur celle des autres, ça change totalement notre manière d'arriver à nos fins. Ça change tout. La vie de Jésus, notre maître, en témoigne. Son but, c'était de se donner pour le salut de l'humanité. Son but, l'amour qui pousse à faire le bien. Il a fait toute une série de miracles qui ont rendu aux hommes leur intégrité. Il les a consolés, il les a exhortés. Il a répondu positivement aux insultes, aux mauvais traitements qu'on lui a infligés. Il a résisté à la tentation d'utiliser ses pouvoirs divins pour se faciliter la tâche. Il a accepté de mourir pour ceux qui l'ont, dans un premier temps, rejeté. Jésus, c'est l'exemple parfait de celui qui a fait confiance totalement à son Père, qui a accompli sa mission avec les buts qui lui ont été donnés par son Père, avec les moyens qui lui ont été donnés par son Père, parce qu'il savait que le Père prenait soin de lui. Il savait que le plan était parfait. Donc, Jésus ne s'est pas énervé. Jésus n'a pas voulu reprendre la main. Jésus n'a pas sauté du haut du temple pour que les anges le rattrapent. Jésus a refusé de se faire roi, alors qu'il est roi. Parce qu'il a compris quel était le but de Dieu. Deuxième partie. Cette communauté particulière est une communauté qui fait envie. Pourquoi est-ce qu'elle fait envie ? Premièrement, parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Parce que si je comprends bien Lévitique 19 et Romains 12, il ne devrait pas y avoir plus gentil, plus aimant, plus compréhensif, plus accueillant, plus calme qu'un chrétien. Vous êtes d'accord avec moi ? Voilà. Oui. Je sais pas, hein, moi j'ai vu ça dans la Bible, hein, c'est la parole de Dieu, donc voilà. C'est vrai, hein ? Donc en gros, si un non-chrétien, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit qui agit en lui, est meilleur que les chrétiens, qui eux ont le Saint-Esprit qui agit en eux, il y a quand même un énorme problème. Vous ne trouvez pas ? Et c'est pareil au niveau communautaire. Il ne devrait pas y avoir d'association où il fait meilleur vivre que les associations chrétiennes, que les églises, que le GBU. Je peux citer les autres associations, hein, mais autant se faire mal à nous. Avec une ligne de conduite aussi parfaite que les textes que nous avons lus, avec des gens aussi conscients de leurs péchés, et donc des gens qui comptent pleinement sur Dieu, cette société, elle devrait surpasser tout autre lieu convivial, comme les, je sais pas, les assos sportives, les assos artistiques, les comités des fêtes, les lotos, et même les associations chrétiennes devraient même être plus conviviales que les familles, les vraies, les familles biologiques. Normalement, ça devrait être encore plus chaleureux. Si nous étions une entreprise, si j'étais dans le management, je vous dirais, personne ne doit nous battre. Personne ne doit nous battre. C'est, je sais pas, Brico Dépôt, hein. Personne ne doit battre nos prix, je crois, c'est un truc comme ça, leur slogan. On devrait être les meilleurs. Lévitique 19, Romains 12. Ça devrait être ça tout le temps. L'église doit être le lieu où le mal est combattu. Où les pratiques et les réactions normales du monde doivent être absentes. On en a parlé hier au niveau 3. Je pense qu'une des réponses à la question « si Dieu existe, pourquoi le mal ?» une des réponses, ça doit être l'église. L'église est le lieu où le mal est combattu, où le mal régresse, où le mal sera bientôt absent. Non. Amen, oui. Just do it, hein. Cette communauté n'a pas d'équivalent, mais c'est une communauté qui fait envie, mais qui est aussi détestée. Et c'est ce qu'on voit dans toutes les épîtres, hein, dans le Nouveau Testament, quand on sait à peu près comment, ce que l'Église est devenue. Les chrétiens, normalement, sont quand même assez exemplaires, enfin, en tout cas, essaient de l'être. Alors, on sait qu'ils ne sont pas parfaits, hein, voilà. Mais du coup, ils dérangent ceux qui sont autour, quand même. Et du coup, ils ont assez vite des problèmes. Et très vite, l'Église a été persécutée. Très vite, les chrétiens sont morts de morts violentes. On a aussi étudié ça avec le niveau 3. Ça, je vous encourage à poursuivre votre cursus. À l'intérieur du coin fond la forme. On a lu des lettres, tout à l'heure, avant-hier, David a lu des lettres de chrétiens, des pères de l'Église, qu'on appelle les pères de l'Église, des chrétiens d'il y a très très longtemps, mais qui étaient très intelligents, et qui écrivaient des lettres alors qu'ils étaient persécutés. Il faut absolument lire ce qu'ils ont dit, quoi. On va sûrement le publier, je pense, sur question suivante, parce que c'est tellement merveilleux ce qu'ils disent. Je veux dire, oh, il n'y a pas de problème, persécutez-nous, il n'y a pas de problème, nous, on va aller au ciel, aucun problème, allez-y, persécutez-nous, allez-y. Quand on pense à tous ces chrétiens qui sont allés dans la fosse aux lions en chantant des psaumes, et en étant contents d'être persécutés pour le nom du Seigneur. Waouh! Ils avaient compris, hein, qu'il était normal qu'ils ne soient pas aimés, et que leur comportement dérangeait le pouvoir en place, et que du coup ils méritaient la mort. C'est le truc normal de tous les chrétiens. Ils dérangent. Un chrétien qui est aimé, qui est admiré par tous, c'est très très suspect. À mon avis. Le chrétien dérange parce que l'évangile dérange. N'oubliez pas comment il a fini, hein, notre chef. Jésus, hein, je parle pas de David, hein, il est encore là. Notre chef, notre Seigneur, il a fini sur une croix. Et a priori, si j'ai bien compris la plupart des épîtres, on est destiné aussi à souffrir pour le nom de l'évangile. Mais c'est aussi une société qui est aussi bienfaitrice de la société, de l'humanité, je dirais même. L'Église, c'est un lieu de transformation, de bonification de ceux qui auparavant étaient un peu déboulés. Pas vous ? Non, il n'y a que moi ? D'accord. Voilà, on a des gens qui avaient des problèmes, qui avaient des problèmes d'identité, qui avaient des problèmes de place. Qui avaient des problèmes, je sais pas, il y en a qui avaient des problèmes d'alcool, il y en a qui avaient des problèmes de tous ordres. Et voilà, ils se sont convertis, ils sont dans l'Église, et ils luttent activement contre ces problèmes, contre ces défauts, contre ce péché. Ils luttent activement, et petit à petit, à grands coups de prière, à grands coups d'exhortation fraternelle, à grands coups de Bible, ils progressent. Il y a des rechutes, mais ils progressent. Et du coup, même si, je viens de vous décrire la persécution, les communautés qui sont régies par la loi de Dieu, par la loi du Lévitique 19 de Romains 12, les sociétés qui sont dirigées par Jésus, ces sociétés-là deviennent attirantes, quand même. Attirantes par un certain nombre de personnes, par des personnes qui ont besoin de changer de vie. J'ai un ami qui est pasteur, et qui... Enfin, c'est un ami, oui. Il est beaucoup plus vieux que moi, mais j'ai un ami qui est pasteur et qui dit, de toute façon, si on évangélise, faut pas s'attendre à avoir autre chose que des cas sociaux. Hein. Que des gens qui ont des problèmes. L'évangile, il est fait pour quoi? Pour régler des problèmes. Les gens qui estiment ne pas avoir de problèmes, ils n'ont pas besoin de l'évangile. Hein. Parce que ouais, c'est toujours le truc, hein, Jésus est la solution, mais quel est le problème? Si on voit pas de problème dans sa vie, si on pense qu'on est totalement heureux, hein, on n'ira pas dans une église. Hein. L'église est la bienfaitrice de la société. Alors, de la théorie à la... Ah tiens, une diapo qui s'est échappée. je l'ai pas supprimée. Maintenant, de la théorie à la pratique. J'aimerais dire une première chose, c'est qu'il n'y a pas d'église parfaite. Parce que bon, voilà, on pourrait croire que peut-être qu'il se cache, je sais pas, au fin fond de la Beauce, par exemple, une église absolument parfaite, une église où règne l'amour et on se fait des bisous et on va toujours batifoler dans les herbes hautes et on se dit oulala, on est heureux, c'est super. Et tout. On donne à manger à tout le monde et il n'y a aucun conflit et c'est l'harmonie la plus totale. Sans drogue. Flower power, mais ouais. Bon. Je pense que voilà, l'église, bien sûr, il n'y a pas d'église parfaite. L'église ont toujours des défauts. Hein. Vous êtes dans des églises, donc vous êtes au courant. Hein. Les églises sont toujours avec des gens qui sont un peu lourds, des gens qui, bon, voilà, qui nous saoulent, voilà, hein, qui ont toujours des problèmes et qui viennent un peu polluer la bonne ambiance. Hein. Par exemple, je sais pas qui, moi, par exemple. Il y a des personnes qui disent, si vous voulez que votre église soit un peu plus parfaite, hein, vu que vous plaignez de votre église, bah sortez. Hein. Il n'y a pas de problème. Il faut pas se leurrer. Hein, surtout si vous êtes depuis longtemps dans l'église, vous savez qu'il y a plein de choses. Le péché a encore une place assez importante, hein, à l'intérieur de l'église, hein, même si on combat contre. On combat contre, ça se dit ça? Même si on le combat, en tout cas, le péché est encore là. Mais, je dois dire que pour des personnes qui viennent pour la première fois dans une église, la plupart du temps, elles sont quand même frappées par la différence d'ambiance. Quand il y a des personnes voilà, qui vont dans des groupes normaux, quelquefois quand ils viennent dans le GBU, ils sont frappés par le fait qu'on s'écoute, par le fait qu'on n'est pas d'accord mais qu'on ne s'engueule pas, par le fait que voilà, on s'aime. On s'aime. Et l'amour, ça ne veut pas dire être d'accord, donc tout va bien. Même des fois, on n'est pas d'accord, des fois on se dit des trucs un peu bizarres, des fois on se fait même un tout petit peu la tête. Mais alors là, la force la plus absolue du christianisme, on se pardonne. Ça, c'est un truc de malade quand même. Les chrétiens ne sont pas plus parfaits que les autres, mais les chrétiens se demandent pardon et pardonnent. Ça, c'est un truc de dingue. J'ai même vu, dans mon église, qui a traversé des périodes un petit peu bizarres, genre des périodes de gros conflits, je sais pas, c'est un truc qui arrive que dans mon église, hein, j'en suis sûr, hein, où il y a deux factions qui s'affrontent parce qu'elles sont pas d'accord sur plusieurs points de doctrine, voilà. Et du coup, elles s'en mettent plein la tête assez régulièrement. Ce qui donne des cultes avec une ambiance absolument top moumoute. Surtout quand c'est une personne d'une faction qui parle. Du coup, l'autre faction fait... Il n'y a que chez moi que ça se passe. En tout cas, j'ai vu un culte où il y avait cette ambiance absolument pourrie, selon moi, hein, où c'était un peu tendu. Et donc, je fais la musique à l'église, hein, donc je suis devant, et donc je vois ceux qui arrivent. Donc je note aussi ceux qui sont en retard, bien sûr. Et là, arrivent des personnes qu'on ne connaît pas. genre une dizaine. Et là, merde. Elle pouvait pas venir à un autre moment. Je sais pas, par exemple, il y a 2 ans. Ou dans 2 ans, j'espère. Quand l'autre partie sera morte. Et donc voilà, culte un peu tendu, hein, et donc des non-chrétiens qui arrivent. Et là, on se dit, oh, dommage. Et bon, bien sûr, le culte se déroule, et puis ça, bon, voilà, c'est un peu tendu toujours. Et là, on se dit, oh là là, le témoignage, c'est foutu. On n'avait pas eu de non-chrétien depuis 25 ans. Qu'est-ce qu'on va te faire? Alors donc, à la fin du culte, on se précipite pour leur dire bonjour. Et là, les personnes disent, ah, oh, merci. Ah, oh, qu'est-ce que c'était chaleureux. Vraiment. Ah, vraiment, on sent qu'il y a un amour qui se dégage et tout. Bon, ok. Et là, moi, j'en tire la conclusion que, à la fois, bien sûr, Dieu, à mon avis, a accompli un miracle, mais aussi que, même quand nous avons des désaccords, même quand voilà, l'ambiance n'est pas top pour nous, et ben, même pour des non-chrétiens qui ont connu largement des ambiances bien pires, et bien, cette ambiance-là est déjà fraternelle. Est déjà pleine d'amour. Nous visons des trucs un peu plus parfaits, quoi. Nous visons la communion, nous visons le dialogue, la compréhension, enfin, tout ce qui évite les conflits, finalement. Et donc, nous disons, ah, l'ambiance, elle est pourrie. Mais elle n'est pas si pourrie que ça. Parce que même quand nous avons des désaccords, même quand nous avons des choses pas très jolies, le Saint-Esprit a quand même été à l'œuvre en nous. Donc, il y a quand même des limites qu'on ne dépasse pas. La plupart du temps. Donc, par exemple, on évite de s'humilier en public. Même quand on est en désaccord, quand on est chrétien. Quand on est vraiment chrétien, des deux parties, hein, je parle. Donc, l'Église n'est pas parfaite, mais quand même, même quand il y a des conflits, même quand il y a des défauts, c'est quand même déjà quelque chose, un témoignage assez extraordinaire, et on commence déjà à vivre des choses bien. Même si, à mon avis, il faut tendre à la perfection. Je termine avec quelques questions d'évaluation pour vous. Dans tout ce que nous faisons, nous devons nous poser une question. Est-ce que le mal a gagné? C'est la thématique de Romains 12, hein. Soyez vainqueurs du mal par le bien. Dans tout ce que vous faites, dans vos réactions, posez-vous toujours cette question. Est-ce que c'est le mal qui a gagné ou est-ce que c'est le bien? Est-ce que c'est Satan qui a gagné ou est-ce que c'est le Seigneur Jésus? Est-ce que Dieu a été glorifié dans ce que j'ai fait. Dans cette question, il y a une posture défensive, c'est-à-dire résister à nos mauvaises pulsions, à nos tentations, à nos tendances, et une posture aussi offensive, c'est-à-dire exhorter ceux qui font le mal. Innover pour changer les choses en bien. Vraiment, recherchons la gloire de Dieu. Deuxième question. Quel rôle jouons-nous dans la société pour combattre l'injustice? Alors, ça peut être la société de manière un peu vague, comme ça, mais ça peut être aussi notre micro-société, c'est-à-dire avec nos connaissances, chrétiennes et non-chrétiennes. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter que le mal se répande? Qu'est-ce qu'on fait pour être le sel de la terre et la lumière du monde? On va voir ça aussi dans 2 jours. Autre question. Notre entourage non chrétien est-il interpellé par notre comportement inhabituel? Je veux dire inhabituel, c'est pas vous êtes comme vous étiez pas avant. Enfin, ça peut être ça aussi, hein. Mais ça peut être aussi vous êtes pas comme tout le monde. En d'autres termes, notre amour pour notre prochain est-il visible? Encore plus pratique, être vainqueur du mal dans nos réactions. Est-ce que vous arrivez à ne pas vous énerver, à ne pas faire votre crise, c'est-à-dire à faire preuve de maîtrise de soi? Est-ce que vous cherchez plutôt à comprendre l'autre? Est-ce que vous vous rappelez que, quelle que soit la situation, Dieu est souverain, Dieu gère? Et donc, vous n'avez pas à paniquer, à faire votre crise. Ça, ce sont les questions que vous pouvez vous poser. Et je vais finir en vous exhortant, un peu comme hier soir, à prier pour votre Église. Alors voilà, on l'a fait hier soir, mais vous pouvez le faire régulièrement. Priez pour votre Église. Priez pour votre GBU. Priez pour toutes ces micro-communautés, ces micro-sociétés où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Priez pour ceux qui ont des responsabilités à l'intérieur de votre Église, à l'intérieur du GBU. Priez aussi pour les autorités, nos autorités. C'est Paul qui nous dit de faire ça, de prier pour les autorités. Parce que c'est elles qui nous donnent un cadre de liberté pour qu'on puisse adorer Dieu en paix, sans que personne vienne nous ennuyer. Prions pour la sagesse de nos autorités. Prions aussi pour que nous approchions toujours plus de la perfection. Vous pouvez lire Philippiens 3 à cet effet. Courons vers la perfection. La perfection individuelle, mais aussi la perfection collective. J'imagine que vous êtes au courant de vos péchés. Vous êtes au courant de vos défauts. Pas besoin de vous faire un dessin. Vous êtes au courant de tout ce qui vous éloigne de Dieu. Alors, prions pour changer. Laissons-nous transformer par le Saint-Esprit. Exhortons-nous les uns les autres à progresser. Exhortons-nous les uns les autres. Encourageons-nous. S'exhorter, ce n'est pas forcément critiquer. Hein. C'est aussi encourager. C'est aussi donner une porte de sortie. En disant, je pense que tu pourrais dire les choses comme ça. Je pense que tu pourrais faire les choses comme ça. Sans dire,
oh, vilain, vilaine, tu as fait les choses comme ça, c'est pas bien. Hein. Je t'exhorte, hein, frère et sœur.
Ceci est un plaisir sadique. Qu'on maquille avec une pensée fraternelle. Encourageons-nous les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Et donc nous avons vraiment besoin d'aide pour accomplir tout cela. Sinon nous allons finir complètement en dépression avant la fin de ce camp. C'est pour ça que nous avons vraiment besoin de prier. Et je ne sais même plus qui doit prier pour terminer. Merci, c'est Rachel. Donc Rachel va prier pour nous.